Il est 3h. Phare FM. C'est Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement ce mercredi 11 juin. Phare
FM. La Bible dit:
ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Been rescued from a thousand ditches. You still swear you don't fit in, so you kick and scream and you're gone again, wandering off into the devil's wind. How's it going out there? Acting like you ain't scared. How's that heart of stone? Ain't so hard when you're alone, crying tears. Guess the good news is he'll never leave you be. Jesus loves you, black sheep. You hate everything about you. You think we're better off without you. You wear your pain out on your sleeve, and you paint it on in a rebel ink, but the alcohol and pills ain't fixed a thing. So how's it going out there? Acting like you ain't scared. How's that heart of stone? It ain't so hard when you're alone, crying tears you hope nobody sees. Guess the good news is he'll never leave you be. Jesus loves you, black sheep. Jesus loves you, black sheep. Ooh. Can't tell you when I ain't no prophet, but there'll come a point in time when you can't stop it. The good shepherd's love smells like smoke. There ain't no hell so low where he won't let the hounds of heaven go. Sick 'em, let the hounds of heaven go. So how's it going out there? Acting like you ain't scared. How's that heart of stone? Ain't so hard. The good news is he'll never leave you be. An amazing grace is a pesky, pesky thing. But the good news is he'll never leave you be. Jesus loves you, black sheep. Jesus loves you, black sheep.
Sand and stone, could you
out. My life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you.
Calling wherever you will go sur Phare FM, il est 3h04, c'est toujours la radio Autrement qui vous accompagne, on est mercredi le 11 juin. J'espère que ça va et encore pour celles et ceux qui travaillent, bon courage et bienvenue si vous venez de rejoindre la radio Autrement. Notre programme se poursuit, on écoute Marine et la chanson Ma Faute.
Minuit 5h,
la nuit Autrement
avec Mireille.
Mon verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux, c'est faux. Ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes, celle qui reste après tout le vacarme. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Je pensais si forte, mais l'averse est passée quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent, ce sera plus jamais ma faute.
Oh, 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 oh. ministère d'Andrew Umak, en collaboration avec Phare FM, est heureux de vous présenter ses émissions « La vérité de l'Évangile » sur la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu.
Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui, je continue à enseigner sur le sujet « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous avons commencé cette série en début de semaine. Il s'agit du troisième jour d'enseignement et au cours des deux premiers jours, j'ai voulu expliquer le fait qu'avant de pouvoir expérimenter le meilleur de Dieu, vous devez le rechercher et le désirer. Vous devez avoir une sainte insatisfaction en ce qui concerne l'idée d'être normal, d'être comme tout le monde. Je peux vous garantir que la personne moyenne ne vit pas ce que Dieu a de meilleur. Il est triste de constater que la plupart d'entre nous ne consultons pas la parole de Dieu pour y rechercher ses promesses. Au lieu de cela, le chrétien moyen regarde autour de lui en se comparant aux autres. Il se fond dans la masse. Il se contente de vivre en dessous de ce que Dieu a de meilleur. Et c'est ce dont j'ai parlé ces derniers jours. Hier, nous avons parlé de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, qui dit « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. » J'ai mis l'accent sur ce passage. J'ai insisté sur le fait que le regard de Dieu parcourt la terre entière. Il recherche ceux qui ont soif de plus de lui. C'est ce dont il est question lorsqu'il est écrit « ceux qui sont d'un cœur parfait ». Personne n'est sans péché, personne n'est parfait dans ce sens-là. Mais ici, il est fait référence à ceux qui sont totalement dévoués au fait de connaître Dieu et ce qu'il a de meilleur. Ceux qui ont soif de plus, c'est ce que Dieu recherche. Dieu désire vous donner davantage plus que vous ne le désirez vous-même. Il n'est pas nécessaire de supplier Dieu de se révéler à vous. C'est plutôt Dieu lui-même qui vous exhorte aujourd'hui. Vous savez, il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, cela veut dire je vous presse, je vous encourage, je vous supplie, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu aussi nous exhorte, son regard parcourt la terre. Il veut vous voir réussir plus que vous ne le désirez vous-même. C'est tellement puissant. Je voudrais lire la suite de ce verset. Je viens de mentionner le fait que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin de trouver ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui ou ceux qui lui sont totalement dévoués et engagés. La suite de ce verset dit « En cela, tu as agi follement, car désormais tu auras des guerres. » De quoi est-il question ici? Retournons au chapitre 16. Et afin de ne pas perdre trop de temps, je vais résumer le contenu de ce chapitre. Dans ce récit, le roi Asa se faisait attaquer par le roi d'Israël. À cette époque-là, Israël était divisé et formé de 2 nations. Il y avait la tribu du nord, composée de 10 tribus, qui s'appelait la nation d'Israël, et il y avait les 2 tribus du sud, qui formaient la nation de Juda. Asa était le roi de Juda. Et il se faisait attaquer par le roi d'Israël. Le roi d'Israël s'était positionné dans un endroit stratégique et il avait commencé à y construire une ville afin de pouvoir couper toutes les ressources du roi Asa. Donc il allait assiéger Juda, les vaincre et les conquérir. Donc le roi Asa était en mauvaise posture. Il était en infériorité numérique, il se trouvait dans une situation dans laquelle, selon les réalités naturelles, il ne pouvait pas gagner. Donc il a décidé de se dépouiller de tout son or et tout son argent. Il ne s'agissait pas uniquement de ses richesses personnelles, mais également de celles du temple. Et il a tout envoyé au roi de Syrie, à Ben-Hadad, pour faire alliance avec lui. Il s'est rapproché de cet autre royaume et a fait un accord avec eux en disant « Je vais te donner toutes ces richesses et en échange, tu attaqueras le roi d'Israël afin qu'il cesse de me combattre. » Le roi de Syrie a accepté. Il a attaqué la partie nord du royaume d'Israël et pour cette raison, le roi d'Israël a dû abandonner le siège de Juda. Et ainsi, Asa a gagné une bataille sans même avoir à se battre, sans perdre une seule vie. Pour faire court, il a embauché une autre nation qui est venue attaquer son ennemi à sa place et a causé la fuite de son adversaire. Donc la plupart des gens se disent qu'il n'y a rien de mal à cela. Il a gagné, c'est ce qui compte. Il a obtenu ce qu'il voulait, il a fait en sorte que le roi d'Israël le laisse tranquille sans pour autant perdre une seule vie de son côté. Tout ce qu'il a perdu, c'est de l'argent. Voilà le contexte de cette histoire. Mais remarquez ceci, il est écrit au verset 7. À cette époque-là, le voyant Hanani alla trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre tes mains. » Afin de comprendre ce passage, il faut retourner plusieurs chapitres en arrière, dans 2 Chroniques au chapitre 14. Au verset 7, il est écrit « Asa disposait d'une armée composée de 300 000 hommes de Juda capables de manier le bouclier et la lance et de 280 000 hommes de Benjamin capables de manier le bouclier et de tirer à l'arc. » Donc au total, il possédait 580 000 soldats et ensuite, il est dit que c'était tous de vaillants guerriers. Zérak l'Éthiopien se mit en campagne pour les attaquer avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars. Et il atteignit Maresha. Réalisez-vous ce que représente plus d'un million de soldats? Ils étaient deux fois plus nombreux qu'eux. Mais regardez ce qu'il s'est passé. Asa marcha à sa rencontre et ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maresha. Ensuite, au verset 10, Asa fit appel à l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force, comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu, ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens sous les yeux d'Asa et de Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans aucun moyen de sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éthiopien et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Il est dit par la suite qu'ils se sont battus contre plusieurs villes et ont remporté la victoire. C'est ce à quoi le prophète faisait référence lorsqu'il parlait à Asa au chapitre 16. Retournons au verset 8. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre tes mains. C'est ensuite qu'apparaît le verset que j'ai utilisé précédemment. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. En cela, tu as agi follement car désormais, tu auras des guerres. Donc voilà le contexte de ce verset. Asa venait de remporter une victoire sans avoir besoin de se battre et sans perdre une seule vie. Il a pris tout l'or et l'argent et l'a donné au roi de Syrie. Le roi de Syrie a donc attaqué les ennemis d'Asa qui ont dû se retirer. La plupart des gens concluraient qu'il est arrivé à ses fins. Il a obtenu la paix sans perdre aucune vie. C'était une bonne chose. Mais le prophète est venu et lui a dit « Non, tu as agi follement. » Et il poursuit en disant que les Syriens auraient aussi été livrés entre ses mains. En d'autres termes, il a atteint son objectif, il a évité la guerre et il s'est sorti de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Cependant, il ne l'a pas fait à la manière de Dieu. Et Dieu lui a dit que s'il avait placé sa confiance en lui, il aurait non seulement vaincu le roi d'Israël, mais il aurait aussi vaincu le roi de Syrie. Il aurait connu une grande victoire sans perdre tout son or et son argent. Il aurait gagné la bataille, et non seulement cette bataille, mais il aurait aussi vaincu la nation syrienne. Les plans de Dieu étaient bien meilleurs. Voici une autre manière de le dire. La solution d'Asa a fonctionné, mais ce n'était pas ce que Dieu avait de meilleur. Il s'est contenté de moi. Et malheureusement, la plupart des gens pensent, du moment que j'ai une belle maison, que j'ai tout ce dont j'ai besoin, du moment que mes besoins sont pourvus, c'est tout ce qui m'importe. Mais il y a une bonne et une mauvaise façon d'atteindre ces objectifs. La fin ne justifie pas les moyens. Asa a obtenu ce qu'il voulait. Il a évité la bataille. Mais il n'a pas accompli les choses selon la volonté de Dieu. Et à cause de cela, Dieu l'a réprimandé. Je vous dis toutes ces choses au nom du Seigneur. Certains d'entre vous travaillez vraiment dur. Vous aimez très certainement Dieu. Et parce que vous avez cherché le Seigneur jusqu'à un certain point, vous pensez que tout va bien. Vous survivez. Vous n'êtes peut-être pas tout ce que vous voudriez être, mais vous êtes arrivé à un stade où vous n'êtes plus en train de galérer, vous n'êtes plus dans une situation de crise. C'est loin d'être parfait, ce n'est pas ce que vous désirez, mais ça vous suffit et vous vous contentez de cela. Mais je vous garantis que Dieu a quelque chose de plus. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir en détail dans l'épisode d'aujourd'hui, mais cette semaine, nous allons aborder le domaine des finances. Il y a des gens qui vivent dans une belle maison, ils ont une jolie voiture, de belles possessions, leurs besoins sont satisfaits, mais ils croulent sous les dettes. Et ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Je sais que les gens sont choqués de m'entendre parler ainsi. J'entends les postes de télévision s'éteindre dans le monde entier. Ou peut-être que vous pensez changer de chaîne. C'est parce que les gens ne veulent pas entendre cela. Ils pensent, peu importe la manière dont j'ai obtenu ce que j'ai. Oui, je suis endetté, c'est vrai. Je dois de l'argent, mais ma vie va bien. Saviez-vous que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur? Je ne dis pas que Dieu est contre qui que ce soit. Dieu ne s'oppose pas à vous si vous avez des dettes. Mais je dis simplement que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Vous savez, ma femme et moi avons été locataires pendant de nombreuses années parce que nous savions que le meilleur de Dieu pour nous était de ne pas s'endetter. Donc nous avons placé notre confiance en Dieu et nous avons cru qu'il allait pourvoir à un logement sans que nous ayons besoin de nous endetter. Nous étions donc locataires à l'époque et je me souviens d'un logement que nous avons loué à Colorado Springs. Ce n'était pas la meilleure maison que nous aurions pu trouver, mais nous y étions parce que l'opportunité s'était présentée à nous. À Colorado Springs, il y a Fort Carson, une académie de l'armée de l'air et beaucoup d'autres installations militaires. Notre propriétaire était un militaire qui s'était installé à Colorado Springs parce qu'il y avait été posté. Mais il avait dû déménager et il n'habitait plus à Colorado Springs. Cependant, il lui restait 6 ans avant d'être à la retraite. Il nous a dit qu'il voulait des locataires qui occuperaient la maison pendant 6 années et c'est également ce que nous recherchions. Nous voulions y habiter pendant quelques années. Nous recherchions une location à long terme. Donc, il nous a dit qu'il allait nous louer la maison pendant 6 ans et nous avons accepté ces termes. Ce n'était pas le plus beau des logements, mais c'était correct et nous avons pensé que pour une période de 6 ans, ce serait parfait. Et nous avons donc loué leur maison. Mais après seulement 6 mois de location, notre propriétaire a décidé de prendre sa retraite anticipée. Il est revenu et nous avons dû partir. Nous y avons finalement habité moins d'un an. Nous savions que le fait de nous endetter n'était pas ce que Dieu avait de meilleur. Je savais également que le fait de déménager tous les 6 mois n'était pas non plus le meilleur. J'ai donc décidé d'utiliser le prêt auquel j'avais droit en tant que vétéran de l'armée. J'ai acheté une maison et j'ai commencé à rembourser le crédit. La raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est pour vous montrer que Dieu n'était pas en colère contre moi à cause de cela. C'était ma décision et Dieu n'était pas fâché contre moi. Il m'aimait toujours. Mais nous n'avons jamais considéré que c'était ce que Dieu avait de meilleur pour nous. Nous avons rapidement décidé de doubler les remboursements de cet emprunt afin de pouvoir sortir de cet endettement le plus rapidement possible. Nous ne nous sentions pas condamnés. Dieu n'était pas en colère contre nous, mais je savais qu'il y avait quelque chose de mieux que de rembourser un crédit avec intérêt. Saviez-vous que lorsque vous achetez quelque chose à crédit, une maison, une voiture, tout ce que vous achetez à crédit, vous allez finir par le payer beaucoup plus cher que sa valeur réelle. Si vous preniez le temps d'y réfléchir avec une analyse logique, vous seriez bien obligé de vous rendre compte que ce n'est pas une bonne décision commerciale. Pourquoi acheter quelque chose au double de sa valeur réelle? C'est tout simplement parce que les gens veulent le confort de pouvoir profiter de ce dont ils ont envie immédiatement. Ils ne veulent pas attendre. Pourquoi ne pas plutôt acheter une voiture d'occasion, quelque chose qui fonctionne? Elle ne possédera sans doute pas toutes les fonctionnalités d'un véhicule neuf, elle ne sentira peut-être pas le neuf, mais vous pouvez acheter un flacon de parfum à 1 euro pour lui donner l'odeur d'une voiture neuve. Il vous faut simplement parvenir à tempérer vos émotions, à vous raisonner pour acheter quelque chose qui soit dans votre budget, qui soit en bon état de fonctionnement, même si ce n'est pas flambant neuf. Ensuite, vous pouvez commencer à mettre l'argent que vous auriez mis pour rembourser, par exemple, le crédit de votre voiture de côté. Si vous économisez quelques centaines d'euros par mois, peu importe la somme, après 4 ou 5 ans, vous seriez en mesure d'acheter une voiture neuve sans pour autant vous endetter et sans avoir à payer d'intérêt. De plus, lorsque vous achetez un véhicule et que vous avez les moyens de la payer en espèces, en général, on vous proposera un prix intéressant. Vous pouvez faire une bonne affaire et probablement économiser des milliers d'euros. Mais la plupart des gens ne recherchent pas ce que Dieu a de meilleur. Ils se contentent de moins. Vous êtes nombreux à regarder cette émission. Et beaucoup, surtout vous qui êtes jeunes, avez grandi avec une mentalité selon laquelle s'endetter était tout à fait normal. D'ailleurs, je parlais récemment avec un couple qui travaille maintenant à l'école biblique. Ils viennent de Norvège, ils sont venus s'installer ici et ils cherchaient à acheter une maison. Ils m'ont expliqué qu'en Norvège, Les gens n'achètent pas de logement à crédit. Ils payent comptant. Ils achètent uniquement ce qui est dans leur budget. Ils me disaient que c'est une mentalité complètement différente que celle des Américains. Il est devenu tellement facile de faire un crédit aux États-Unis que nous en sommes au point d'hypothéquer notre avenir. Je tiens à le dire à nouveau, je ne condamne personne. J'ai utilisé l'exemple de Jamie et moi lorsque nous avons acheté notre maison à crédit parce que nous avons finalement compris que le fait de louer un bien et de se retrouver à la porte tous les 6 mois dès que le propriétaire changeait d'avis ne représentait pas la liberté totale non plus. Cela nous a conduit à acheter à crédit, mais nous avons réussi à rembourser notre emprunt en moins de 15 ans. Nous avons remboursé un crédit de 30 ans en moins de 15 ans, parce que nous avons réalisé que le fait de payer tous ses intérêts n'était pas ce que Dieu avait de meilleur. Je ne me souviens plus des économies que nous avons réalisées, mais il s'agissait d'un montant important. C'était sans doute des dizaines de milliers de dollars. Sur une période de 30 ans, il est possible qu'on aurait eu à payer jusqu'à 100 000 $ d'intérêts, donc on a fait des économies en remboursant rapidement. Maintenant que nous avons fini de payer les crédits de la maison ainsi que des voitures, nous n'avons plus d'obligation à rembourser quoi que ce soit. Nous n'avons que les dépenses du quotidien, comme les pleins d'essence, les courses ou d'autres achats de ce style à nous occuper. C'est une vraie liberté de ne rien devoir à personne. Et je peux vous dire que c'est ce que Dieu a de meilleur. Et tout cela a un rapport avec Asa, parce qu'il a fini par avoir ce qu'il voulait, mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Et à cause de cela, il a perdu la victoire encore plus grande qu'il aurait pu remporter contre les Syriens. On pourrait se dire, mais il a eu ce qu'il voulait, c'est ce qui compte. Mais non, car il s'est contenté de moins que ce que Dieu avait de meilleur, et cela a fini par le contrarier. Je voudrais vous lire la suite, juste après que le prophète lui ait dit ces choses. Regardez ce qui est écrit au verset 10. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette parole. À la même époque, il maltraita aussi quelques membres du peuple. On voit que le roi s'est irrité contre le prophète à cause de ce qu'il lui avait dit. Il avait obtenu ce qu'il voulait alors qu'on ne vienne pas lui dire le contraire. Ça a fonctionné et c'est tout ce qui comptait pour lui. Je sais que certains d'entre vous sont contrariés par les choses que je dis, parce que je remets en question le rêve américain qui consiste à en avoir toujours plus, à amasser des biens, à coups de crédit, peu importe les intérêts. On doit être prêt à payer une chose le double de sa valeur réelle pour l'avoir tout de suite, mais en réalité, on hypothèque son avenir. Vous savez, le gouvernement des États-Unis, d'ailleurs pas seulement le gouvernement des États-Unis, mais la plupart des gouvernements sont endettés. Ils sont endettés jusqu'au cou. Nous avons accumulé une telle dette aux États-Unis qu'il sera impossible de la rembourser à moins d'effectuer des changements majeurs et drastiques. Notre gouvernement, à tous ses niveaux, du sommet à la base, accepte l'endettement. Les politiques hypothèquent leur avenir. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Est-ce que cela veut dire que Dieu déteste l'Amérique? Non. Est-ce que cela signifie que Dieu vous déteste si vous êtes endetté? Non. Mais ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Et vous savez quoi? Tant que vous parvenez à tolérer cette situation, vous le ferez. Il va falloir que vous en ayez marre de crouler sous les dettes. Vous devez en arriver au point de détester l'idée de tout payer au double de sa valeur, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à faire preuve de patience et à placer votre foi en Dieu, à lui faire confiance. Et cette attitude vous conduit à hypothéquer votre avenir. Il y en a parmi vous qui regardez cette émission aujourd'hui, vous vivez dans une grande maison, vous conduisez plusieurs voitures, vous possédez les dernières technologies, plusieurs écrans plats, les téléphones dernier cri, des vêtements à la mode, vous vivez une vie de luxe. Et vous avez tellement de dettes que s'il y avait la moindre crise, si vous perdiez votre emploi, tout votre monde s'écroulerait autour de vous. Nous avons vu cela se produire dans le marché de l'immobilier, parce que le fait de contracter un emprunt était devenu trop facile. Les gens aménageaient dans des maisons qui étaient au-dessus de leurs moyens. Du coup, lorsqu'il y avait la moindre difficulté économique, ou lorsque les gens perdaient leur emploi, il y avait une augmentation immédiate dans les saisies. Beaucoup de logements ont été saisis parce que les gens vivaient au-dessus de leurs moyens et achetaient tout à crédit. Mais ce n'est pas en accord avec le système de Dieu. Certains d'entre vous êtes en train de vous préparer pour aller au travail en écoutant cette émission. Et vous êtes peut-être dans l'obligation d'avoir 2 jobs. Ou alors vous et votre conjoint n'avez pas d'autre choix que de travailler tous les deux. Cela vous a amené à déléguer l'éducation de vos enfants à quelqu'un d'autre et cela peut être dû au fait de vivre au-dessus de ses moyens. Vous êtes stressé, vous êtes sous pression, votre vie est toujours à 100 à l'heure, cela a un impact sur votre santé, sur votre vie de couple et ainsi de suite, la liste est longue. Toutes ces choses sont dues au fait que nous ne recherchons pas ce que Dieu a de meilleur. Nous utilisons le système du monde pour obtenir ce que nous voulons, quand nous le voulons, et nous ne pensons même pas à l'avenir. Nous ne réfléchissons pas au fait que nous achetons les choses au double de leur valeur réelle. Et à cause de cela, nous vivons dans le stress et nous nous créons beaucoup de problèmes. À nouveau, ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est toute votre vie qui a pris cette direction. Peut-être que vous êtes d'accord avec ce que je dis, que le Saint-Esprit confirme ces principes, mais vous avez créé un monstre et maintenant vous devez nourrir toutes ces dettes et continuer à effectuer tous ces remboursements. Cela fait sans doute une quinzaine d'années que ma femme et moi sommes libérés de toutes nos dettes. Et je peux vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour bien vivre lorsque vous n'avez pas de crédit à rembourser sur votre maison, sur votre voiture, lorsque vous n'êtes pas en train de rembourser des crédits à la consommation. Lorsque vous n'achetez plus à crédit, vous n'avez pas besoin d'énormément d'argent. Vous seriez surpris de constater que vous pouvez vivre avec beaucoup moins d'argent lorsque vous n'avez pas d'emprunt à rembourser, que vous n'achetez plus les choses pour deux fois leur valeur réelle. Mais nous ne recherchons même pas ce que Dieu a de meilleur. Je sais que certains se demandent pourquoi il est important de vivre sans dette pour connaître ce que Dieu a de meilleur. Eh bien, dans la prochaine émission, je parlerai plus en détail de tout cela et je lirai des versets qui pourront vous éclairer. Il y a de nombreux passages qui montrent que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on soit endetté. Ce n'est pas le conseil que donne la parole de Dieu. Cependant, la vaste majorité des chrétiens ne considèrent pas la parole de Dieu comme étant un standard pour leur vie. Ce n'est même pas quelque chose qu'ils recherchent. Certains qui regardent cette émission, ce sujet vous importe peu. Vous êtes totalement satisfait de tout payer au double de sa valeur. Ça ne vous pose aucun souci. Mais sachez que vous ne connaîtrez jamais une vie sans dette tant qu'il vous sera possible de tolérer l'endettement. Vous devez changer vos objectifs. À nouveau, je ne dis pas cela pour vous condamner, mais le message que j'aimerais faire passer, c'est que vous ne devez plus vous contenter du système de ce monde. Peut-être qu'il vous faudra l'utiliser, il vous faudra peut-être à un moment donné commencer dans ce système, mais vous devez chercher à en ressortir, vous devez amorcer certaines actions pour ne pas en rester là. Il y a des choses que vous pouvez faire pour changer la situation, mais rien ne changera tant que vous n'en avez pas marre, tant que vous n'en avez pas assez du fait de payer des dettes et de vivre en dessous des standards de Dieu. Ce que je partage est vraiment puissant. Je sais que vous êtes nombreux à avoir la même attitude qu'Asa face au prophète. Vous êtes fâchés avec le messager. Certains d'entre vous êtes en colère contre moi. Mais pouvez-vous être en désaccord avec les choses que je dis en lisant la parole de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'elle encourage l'endettement? Est-ce le système de Dieu? Si vous êtes honnête, alors vous devez reconnaître que la réponse est non. Pourtant, vous retombez continuellement dans le même schéma. Il y en a parmi vous aujourd'hui qui êtes en train d'envisager de contracter un emprunt. Si vous pouvez l'éviter, je vous encourage vraiment à ne pas le faire. Et même si pour une raison ou une autre, vous vous retrouvez dans cette situation, alors comme il est mentionné dans Proverbe 6, « Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Ou bien encore, Proverbe 22:7, « Celui qui emprunte, et l'esclave de celui qui prête. » Vous devez vous sortir de cette situation le plus rapidement possible. Ne soyez pas condamnés, Dieu n'est pas fâché contre vous. Je ne suis pas fâché contre vous, mais je dis simplement que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Et tant que vous arrivez à vous contenter de moins que ce que Dieu a de meilleur, vous le ferez. Vous devez vous en libérer et changer cette situation. C'est vraiment puissant. Je veux à nouveau vous encourager à vous procurer cet enseignement « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous l'avons sous forme d'USB et d'autres supports tirés de nos émissions télévisées. Nous avons aussi ce tout nouveau livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». Le sous-titre est « Ne vous contentez pas de moins ». Je vous promets que cet enseignement peut tout changer. Il peut transformer votre vie. Il s'agit d'une toute nouvelle offre. C'est un tout nouvel ouvrage. Si vous écoutez notre annonceur, il vous donnera toutes les informations, alors n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Vérité de l'Évangile du ministère d'Andrew Womack, réalisé en collaboration avec Phare FM. Retrouvez-nous sur www.awmi.fr pour découvrir nos séries d'enseignements ou pour nous contacter. À une prochaine fois pour grandir ensemble dans la connaissance de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu.
Il est pratiquement 4h moins 20, la radio Autrement avec vous, dans la nuit Autrement sur Phare FM. J'espère que ça va. Et notre programme qui se poursuit en musique, We Are Messengers, on les écoute. Image of God sera le chant et puis tout de suite après, votre prochain rendez-vous présentiel, un moment avec Jésus. À tout à l'heure. I woke up with a broken heart in my chest. I couldn't sleep, couldn't get no rest. Weighed down by the heaviness of life, and I try to shake it, flipping through my phone, but all it does is make me feel more alone. How could anything that feels so wrong be right? 7 billion voices separate us, but only one can show us who we are. We are. Oh,
that's where the light comes from, yeah. We all need the same medicine. We all need another second chance. There's no first in line at the foot of the cross. Father, forgive me. Show my concrete heart. We are made in the image of, made in the image of God. Beautiful shades of love. We are that's where the light comes from. We fall apart, we all lose sight of heaven, but still your love is chasing us. And oh, give me a heart for every heart that's breaking, and give me eyes to see with so much more than flesh and blood. We are made in the image of, made in the image of God. Yeah.
Bonjour, mon ami. Et il ne s'agit pas de courir ou de ralentir, mais de marcher au bon moment dans la bonne direction. Mon rythme, c'est celui du discernement, de la paix et de la fécondité. Ce n'est pas une cadence imposée, mais un rythme inspiré, ajusté à ta saison. Comme l'Ecclésiaste l'a dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Je veux t'apprendre à reconnaître le temps d'avancer, le temps de semer, le temps de te taire et le temps de parler. Pas à pas, je t'aide à discerner la saison que tu traverses et à y porter du fruit. Mon ami, tu n'es pas appelé à tout faire, tout le temps, mais à accomplir ce que je t'appelle à faire au bon moment. Reste proche de moi, laisse-moi poser le bon tempo. Tu verras combien la paix vient lorsque ton cœur est accordé au ciel. Ton ami.
Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à marcher au rythme de ton discernement et de ta paix. Apprends-moi à reconnaître le moment d'avancer, de semer, de me taire et de parler. Que je sois attentive à la saison que je traverse et que je porte du fruit en suivant ton appel. Aide-moi à rester proche de toi et à laisser ton tempo guider ma vie. Que mon cœur soit accordé au ciel et trouve ainsi la paix véritable. Merci d'être mon guide et mon ami. Amen.
Retrouvez Présentiel, un moment avec Jésus, en podcast sur pharefm.com/replay et sur votre plateforme d'écoute favorite.
Pharefm, une autre musique.
Je vais descendre le grand escalier avec ces pierres mal attachées. Même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher. Reprendre ce que la vie m'a ôté.
Autour pour m'emmener, m'emmener loin de tout.
Girl, you know I can't.
Tiens ma main, c'était Saint Paul sur Phare FM, Hold My Hand. Il est 4h10 et l'heure avance, tout en douceur bien sûr pour celles et ceux qui travaillent. Mais voilà, bientôt ce sera fini pour vous et puis ce seront les autres qui vont devoir se lever pour aller travailler. Alors je vous souhaite encore bon courage et on poursuit en musique. On va écouter tout de suite The Young Escape et la chanson Older.
Now I'm thinking about you. I'm breaking. I'm through with the fake and the phony. When life gets hard, I still face in your direction. In a world full of depression, you are always the exception. Just the thought of you in solitude is all it takes for the sun to shine through. The hardest days that come with pain can never change what you have made true. Sunsets, long nights, I'm trying to catch fireflies. I'm barefoot, running wild. Oh, what a beautiful life.
All the lies I told myself don't mean a thing when I think about you. Every doubt, every fear is turned away when I think about you. Every day there's a chance to dream again when I think about you. All I'm fixed, and the one thing that remains, I think about you.
Phare FM, ma radio.
Tabou de lever le matin, penser que tout ne sert à rien, ne plus pouvoir cacher ton chagrin, alors qu'au fond ça fait du bien. Je me rappelle de tous nous deux, quand je ne pensais à plus rien, seulement à te plaire, être amoureux. Alors qu'au fond c'était en vain. Alors tu penses, tu rigoles, tu ressasses et tu pleures. Alors tu penses que tu penses pas, mais c'est quoi cette douleur? Alors tu penses, tu penses, tu penses et tu dis ça, que tu pourras jamais, jamais oublier cette histoire-là. Et tu penses, penses, tu penses aussi, ton absence, j'y pense aussi. J'y pense, pense, j'y pense aussi. Mon absence, t'y penses aussi. T'as beau embrasser d'autres femmes, t'auras plus jamais cette même flamme qui brûle en toi, en nous, en vous. Quand tu deviens fou dès qu'elle t'appelle mon chou, on se dit toujours que c'est pour la vie. À toujours faire le mec surpris, tu dis toujours qu'elle reviendra, que ses affaires seront toujours chez toi. Alors t'y penses, tu rigoles, tu ressasses et tu pleures. Alors tu penses que tu penses pas, mais c'est quoi cette douleur? Alors t'y penses, t'y penses, t'y penses et tu dis ça, que tu pourras jamais, jamais oublier cette histoire-là. Et t'y penses, penses, t'y penses aussi, ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense, pense, j'y pense aussi, mon absence, ah t'y penses aussi. Waouh, tu l'oublies, t'oublies ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle serait. Au beau moment passé, aux instants de regret. Alors t'y penses et tu grandis. Et t'y penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi. Mon absence, t'y penses aussi. Et t'y penses, penses, t'y penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense, penses.